Caillou dans la chaussure, bonjour et bienvenue dans cette émission du mois d'octobre avec nos invités du jour, toujours à propos d'enfance, auteurs des livres, des films et aujourd'hui, une sortie pour aller voir une exposition à Aix-en-Provence proposée par Caroline Guichard en troisième partie d'émission. Caroline, bonjour.
Bonjour Marie-Dominique. En effet, la Galerie d'art du Conseil Général présente jusqu'au 28 février La forêt de mon rêve, une exposition au pays du « Il était une fois » une promenade dans les bois pendant que le loup n'y est pas. Quoique, nous recevrons pour nous en parler Vincent Thuzet-Sanrès, commissaire, avec notre chroniqueuse cinéma Nathalie Guimard de cette exposition.
Merci Caroline, à tout à l'heure. Nous retrouverons au cœur de l'émission le petit cinéma de Photokino avec quatre chefs-d'œuvre de l'animation chinoise réalisés au studio d'art de Shanghai. Programme de la séance du mercredi 3 novembre à 11h à l'espace Robert Hossein à Grance. Et oui, le petit cinéma part en balade. Et tout de suite, dans la rubrique livres, approchons l'univers de Sarah, auteure illustratrice de nombreux albums jeunesse, dont le dernier titre paru s'appelle « Je suis né bonhomme » aux éditions Thierry Magnier. Sarah, ou l'art de raconter des histoires en papier déchiré. Pour parler d'albums jeunesse, nous prenons le temps aujourd'hui de rencontrer Sarah, dont la technique de prédilection est d'utiliser le papier déchiré, mais pas uniquement. Alors, autant dire que ces albums sont tout particulièrement reconnaissables, mais aussi et surtout, les albums de Sarah sont le plus souvent réalisés avec le moins de mots possible, un univers finalement très cinématographique, puisque la force des images happe le regard et l'esprit pour imaginer à notre tour les histoires de Sarah. Sarah, bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous. Je suis ravie de vous accueillir dans cette émission. En amont de votre venue à Marseille, samedi 30 octobre, pendant la manifestation Les Littorales sur le cours d'Estiendorf, nous y reviendrons tout à l'heure. Sarah, j'ai déjà prononcé plusieurs mots-clés qui caractérisent votre travail d'artiste, notamment votre imaginaire cinématographique, qui, donc, me semble-t-il, a été un élément déclencheur et est toujours très probablement porteur de votre travail. Alors pour entrer de plein pied dans votre imaginaire, j'aurais voulu savoir, Sarah, d'où et jusqu'à quel point le cinéma vous influence-t-il ? Et est-ce qu'il y a un cinéma particulier aussi qui vous nourrit et qui participe activement à la création des images, des albums que vous réalisez ?
Oui, je pense que j'ai adoré le cinéma sans parole, des débuts du cinéma. J'ai trouvé que c'était une magie que j'ai regardée pendant de nombreuses années quand j'étais jeune. Et donc ce cinéma, ça a été important parce que je me suis rendu compte que le fait qu'il n'y ait aucune parole faisait que les émotions des images parlaient de manière beaucoup plus efficace que quand le cinéma a du texte. Par exemple, j'ai entendu mes enfants regarder des films où il y avait énormément de paroles. Et donc j'étais dans la pièce à côté, j'entendais des dialogues tout le temps. Et je venais voir le film, je venais regarder un petit peu les images et je m'apercevais que, en fait, les images n'avaient plus aucun poids. Ce qui était important, c'était les paroles. Et donc, ça m'a convaincu que le cinéma que moi j'aime, c'est celui où il y a le moins possible de paroles. Je vais donner un exemple. Encore une fois, je me souviens avoir beaucoup parlé dans ma famille d'un film que j'avais trouvé exceptionnel et qui était Un condamné à mort s'est échappé de Bresson et je leur en parlais en leur disant que ce film racontait l'histoire d'un homme qui s'échappe d'une prison. Et donc je l'avais vu il y avait très longtemps et le jour où ils sont allés voir ce film, ils sont venus en se moquant de moi et en me disant mais ce moment-là ne dure que 10 minutes à peine dans le film. Et c'est vrai que le moment où on le voit se glisser pour sortir de la prison, eh bien, il était resté chez moi comme un moment immense et qui durait des heures et des heures et des heures. Donc le temps prend une autre notion, prend une autre importance dans l'image seule.
D'accord. Donc on peut citer déjà un de vos livres, notamment Aké, qui est accompagné, donc un livre sans parole, qui est accompagné d'un DVD, d'un CD avec sur lequel on peut regarder donc la même histoire mise en images, donc les images fixes du livre et les images animées qui accompagnent ce livre. Comment est-ce que ce travail-là, du coup, a vu le jour? Parce que
alors, ce livre, enfin l'album est né après le film. C'est-à-dire que j'ai suivi une formation de scénariste et j'ai suivi cette formation parce que un éditeur m'avait fait cette réflexion qu'il n'y avait pas d'histoire dans mes albums. Donc j'ai voulu savoir ce que c'était qu'une histoire et donc je me suis inscrite à une formation de scénariste. J'ai suivi cette formation pendant 7-8 mois et j'ai donc appris à écrire des scénarios pour les dessins animés à la télévision avec une minute par page, au moins 4 dialogues dans la page, etc. Et en même temps, j'ai découvert qu'il y avait à cette époque-là un centre de la première œuvre qui donnait les moyens à quelqu'un de faire son premier film d'animation. Donc j'ai proposé un projet et je pense que mon projet n'allait pas du tout parce que je n'avais aucune technique, ni de scénariste, enfin ni de storyboardeuse, ni de réalisateur. Mais malgré tout, grâce en particulier je pense à Serge Elissalde et peut-être d'autres réalisateurs, j'ai obtenu la possibilité de faire ce film avec l'aide des Gobelins. Et donc ce film, je l'ai fait. Et ensuite, je l'ai présenté au Seuil. Et Brigitte Morel, qui était au Seuil à cette époque-là, m'a proposé de faire un album. Et du coup, je me suis posé la question, puisque j'ai déjà raconté une histoire dans ce film, comment je vais faire pour l'album? Et j'ai raconté la même histoire que dans le film. Mais alors que dans le film, c'est un capitaine qui débarque dans une ville inconnue et qui est poursuivi par un chien pendant tout ce film, eh bien, dans l'album, on voit le point de vue du chien et non pas celui du capitaine. Donc c'est un autre point de vue. Mmh. Et ça se termine par un troisième point de vue qui est celui d'une femme qu'on voit dans le film, mais pas dans l'album, et qui, elle, écrit une lettre.
Donc les deux sont complémentaires.
Oui, c'est ça. Les trois sont le même moment, vécu par trois personnages différents. Mmh. Et la seule qui prend la parole, c'est une femme. Mmh.
Le point de vue, c'est quelque chose qui vous anime, qui vous titille, qui est important. C'est-à-dire de raconter les histoires à partir du point de vue d'un personnage, par le truchement de son regard, de son propre regard sur le monde.
Oui, tout à fait. Je pense que cette expérience, je l'ai trouvée très intéressante parce que ça vous oblige, enfin ça oblige à changer de personne. Mm-hmm. On est obligé de s'impliquer dans quelqu'un d'autre. Mm-hmm. Et je trouve que c'est très intéressant, enfin c'est intéressant largement dans la vie effectivement de prendre le point de vue de quelqu'un d'autre.
De décaler le regard.
Mm-hmm.
À partir de cet album-là, on voit aussi, on peut citer pour les auditeurs quelques caractéristiques, donc une économie de mots, on en a parlé, un imaginaire cinématographique, les couleurs aussi, donc beaucoup de noir, de blanc, de gris et du jaune, ce fameux chien. Donc là, je viendrai peut-être sur l'importance aussi dans plusieurs de vos albums des animaux, et notamment peut-être plus particulièrement les chiens. Donc c'est un personnage qui vous tient à cœur et qui vous permet d'exprimer des choses plus proches de ce que vous avez envie de dire dans les livres que d'utiliser les chiens.
Alors, dans Aké, le chien est jaune. Donc, effectivement, quand j'utilise le chien, Je l'utilise parce que j'ai découvert la relation avec les animaux, parce que j'ai eu un chien, une petite chienne qui s'appelait Gange, et je n'avais jamais connu les animaux auparavant. Et là, cette relation avec ce chien m'a montré qu'il se passait quelque chose dans la relation avec un animal où il n'y avait pas de parole. Mais on se comprend à un autre niveau, à un niveau qu'on découvre à ce moment-là dans la relation avec l'animal. On découvre tout d'un coup qu'on peut être en relation sur un plan émotif, affectif, et que l'animal vous comprend et on a l'impression qu'il vous touche votre cœur. Donc, dans « À quel le chien est jaune ?» Pourquoi ? Parce que dans la symbolique des couleurs que j'utilise dans mes albums, eh bien, le jaune, effectivement, c'est la couleur du soleil, donc de la chaleur qui réchauffe le corps, mais aussi le cœur. Et donc, c'est pour ça que j'utilise le chien jaune dans cet album, puisque, d'une certaine manière, le chien représente l'affection, l'affectivité. Mmh. Et on peut dire que dans cet album, il y a un capitaine, un chien et une femme, et dans lequel le chien représente le cœur. Mmh. Et c'est pour être une même personne avec ces trois caractéristiques. Peut-être le capitaine, c'est-à-dire l'aventurier, celui qui passe à l'action, celui qui réfléchit, la femme qui va être plus la passion, et le chien qui va être l'affection, le cœur.
Donc le tout aussi, ce chien jaune éclatant sur un fond noir, gris, nocturne, froid, qui peut représenter du coup l'extérieur, qui n'est pas forcément facile d'aborder, ou un extérieur voilà, qui renvoie quand même à une certaine dureté là, sur ses quais.
Alors les quais, oui, parce que j'aime beaucoup l'architecture des quais. L'architecture industrielle d'une manière générale, mais en particulier les quais. Je me souviens m'être promenée petite fille sur les quais du port de Rouen, port qui a disparu. Et les images qu'il y a dans cet album, c'est une évocation de ces images dont j'ai gardé le souvenir, de passerelles, de grues, de paquebots, de tonneaux, etc.
Un peu gigantesque aussi.
Un peu gigantesque. Hein,
des grandes formes.
Et sombre, sombre. Et sombre.
Alors, je voudrais avancer aussi, Sarah, dans d'autres albums, que le patrimoine, l'histoire ancienne avec ses mythes sont aussi une matière créative. Alors, je peux citer plusieurs titres. Nu, aux éditions du Seuil, paru en 2009. Les métamorphoses d'Ovide, chez Circonflexe en 2007, où là, on aborde la violence symbolique des dieux et des déesses tentées par le désir de l'autre, le désir du corps de l'autre, la vengeance, des émotions très très violentes. Moi, je le trouve splendide, celui-ci. Et Astrophysique aussi, paru à La Joie de Lire en 2009, où les éléments, la matière voltigent et sont invisibles à travers l'éternité du temps. Ça, c'est une phrase que vous citez de Lucrèce. Donc, Sarah, d'une manière générale, et peut-être en s'appuyant sur les métamorphoses d'Ovide, c'est important de partager avec les enfants des sujets vastes dans le temps, dans le monde, et qui parlent des origines.
Oui, c'est... C'est-à-dire que je trouve que tout ce qui est du passé est tout, pour moi tout aussi intéressant que le présent, puisque c'était le présent d'autres personnes. Et les métamorphoses d'Ovide, elles sont venues du fait que, comme je ne suis pas du tout une scientifique, de temps en temps, pour me tenir au courant de ce qui se passe dans notre société, je vais écouter des conférences sur les sciences pour essayer de comprendre ce qui se passe. Et je suis allée voir écouter un certain nombre de conférences de philosophes ou de scientifiques sur soit les OGM, soit les xénogreffes, etc. Et je me suis rendu compte que il était question finalement de considérer les êtres vivants comme des briques et qu'on pouvait les interchanger. Et par exemple, on pouvait très bien, on pense, éventuellement, je ne sais pas si on le fait maintenant, à nous mettre, par exemple, si on n'a plus d'estomac, nous mettre un estomac de porc, par exemple, ou bien faire des échanges, ou bien peut-être même, par exemple, ce qu'on est capable de faire pour les fraises, pour les garder au frais, on leur met une ADN de poisson. Donc, je me suis, du coup, ça a fait écho pour moi aux métamorphoses d'Ovide, qui a été écrit il y a plus de 2000 ans, qui étaient des vieux contes, des vieux mythes d'autrefois. Et j'ai trouvé que c'était intéressant de montrer que finalement, on en est toujours au même point. C'est-à-dire qu'effectivement, on voit Actéon se transformer en cerf par la malédiction d'une déesse, ou on voit Callisto transformé en ours. Et donc, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est de montrer qu'est-ce que ça pouvait faire dans notre corps, uniquement avec les images, en montrant qu'est-ce qu'on peut éprouver avec cette idée que notre corps va peut-être se transformer. On va peut-être, si on nous met une ADN de plantes pour qu'on puisse faire comme les plantes, se nourrir de l'air du temps, de manière à ce que on dépense moins, ce soit plus facile de nourrir les êtres humains, mais du coup on va être différent. Et je m'imaginais faire un raccourci en 12 ou 8 à 12 images et montrant notre corps changer. Donc c'était un jeu et à la fois une émotion du corps.
Donc beaucoup d'émotions dans ces images, pas beaucoup de mots, mais finalement des mots ressentis comme la liberté, l'émancipation, la séparation. Là, je fais allusion à Révolution, aux enchaînés. Là, vous venez de nous expliciter aussi, voilà, que ça part aussi de réflexion très personnelle, de curiosité personnelle sur les dysfonctionnements, sur les évolutions du monde. Et sinon, voilà, on va être obligé de passer un tout petit peu plus vite parce que vous avez beaucoup, beaucoup d'albums. Il y a aussi des histoires courtes, des histoires très visuelles comme Volcan qui est destiné à la petite enfance. Et puis, donc Nu, on en a parlé tout à l'heure parce que voilà, j'ai le livre sous la main, je me suis un peu perdue.
Oui, je peux peut-être...
Oui.
Je peux peut-être dire deux mots de...
On va y revenir
d'accord.
Celui-ci, voilà. Mmh. Non, j'ai perdu mon idée, en fait. On coupera un tout petit peu là. Merci. oui, et donc je disais en introduction, les caractéristiques des bouquins de Sarah, c'est pas beaucoup de mots, des images très très fortes, on est dans une éducation au regard visuel, et malgré tout, j'avais envie de citer aussi un livre que finalement vous avez écrit et que Bruno Hetz a illustré. Donc ça me fait mentir. Et vous avez eu besoin d'écrire un texte à propos d'enfance, d'où est parti ce livre-là.
Alors c'est...
Ça s'appelle « Cet homme est un vautour ».
Oui, « Cet homme est un vautour ». Pourquoi j'ai écrit ce texte? Peut-être mon expérience de parent. Je me suis rendu compte que... et d'auteur également, puisque... d'auteur jeunesse, puisque... c'est arrivé souvent qu'on me fasse cette réflexion que mes albums étaient trop difficiles ou parlaient de sujets trop tristes ou trop difficiles pour les enfants. Et par exemple, pour l'album que j'ai illustré, Enchaîné. Et je trouve, et qui raconte l'histoire d'un chien en fait qui est tué par son maître. Donc effectivement, c'est très dur. Et puis mon expérience de mère aussi, je me suis rendu compte qu'en fait, dans notre société, malgré tout, les enfants étaient un peu des produits de consommation. Je vais caricaturer, hein, mais malgré tout, il y a quand même quelque chose d'un peu vrai. On a des enfants, et puis bon, il faut qu'ils rendent quelque chose. Et autrement, on n'a pas d'assurance sur les enfants, donc on ne peut pas les rendre, etc. Mais il y a une espèce de dureté. Et si la vie des adultes n'est pas satisfaisante pour eux, eh bien, la satisfaction de leur propre vie passe avant celle de leurs enfants. Ça, c'est clair. Et ça arrive très souvent, on le voit très souvent. Et donc, j'ai voulu, dans cet album, eh bien, exprimer l'idée qu'à un moment, il fallait savoir dire non, parce que l'enfant qu'on avait mis au monde passait avant ses propres expériences. Donc, c'est l'histoire d'une femme qui a un petit copain à un moment, et ce petit copain n'aime ni les chiens, ni les enfants. Et elle accepte beaucoup de choses, beaucoup de maltraitance sur le chien et sur l'enfant, jusqu'au moment où il dit non. Et c'était... Je l'ai écrit un petit peu... C'est un peu un cri du cœur, cette écriture. Mm-hmm. Et ensuite, une fois que je l'avais dit, eh bien, je n'avais plus de possibilité de mettre d'image dessus, puisque je l'avais dit. Alors que normalement, je commence toujours à travailler mes images. Et c'est pour ça qu'avec l'éditeur Casterman, eh bien, nous avons proposé à Bruno Heitz de faire les images. Mm-hmm.
Bien, et le tout dernier album, donc Sarah, qui vient de sortir, Je suis né bonhomme, aux éditions Thierry Magnier. Donc c'est un petit bonhomme qui survole les pages, qui traverse plusieurs aventures. Comment est né ce dernier album ?
Alors l'album, il est né il y a très très longtemps, l'idée de cet album, et ça vient d'un dessin fait au fusain par mon fils, et qui était un petit bonhomme avec un chapeau, très précisément, avec son petit corps en triangle, sa tête, son chapeau, les mains et les pieds, et les jambes. Et ce petit bonhomme me semblait une petite perfection, et donc je l'ai gardé, j'en ai gardé l'idée, et j'ai cherché, pendant, il a mis 20 ans à venir au monde, ce petit bonhomme. Et parce que je cherchais comment faire, comment dire quelque chose avec ce petit bonhomme. Et je savais bien que ce que je voulais dire, c'est comment un petit bonhomme vient au monde, de différentes manières, à la fois la naissance, mais également le dessin. Mmh. Comment un enfant crée un petit bonhomme, et qu'est-ce que ça veut dire. Donc c'est une petite allégorie de la difficulté à naître, à la fois cet album qui a mis 20 ans,
oui, par exemple,
à la fois le petit bonhomme, puisque c'est une construction de l'enfant, et puis en même temps la naissance de l'enfant. Donc il a différentes significations. Il est avec du fusain, du papier noir, du papier blanc et du papier recyclé.
Merci beaucoup, Sarah. Pour résumer l'œuvre de Sarah, j'ai relevé une phrase de Marie-Thérèse Devès de L'Art à la Page, qui a activement participé à valoriser votre travail, à vous faire connaître aussi, qui fait un très très beau travail auprès des illustrateurs jeunesse. Et elle dit de vous, donc, une sensibilité à vif, la sincérité d'une artiste volontairement sans artifice, les techniques et les couleurs minimales, le non-texte comme une langue, un monologue intérieur. Je rajouterai l'écoute des émotions et des images mentales, une éducation au regard, en somme. J'espère que vous aurez entendu tout ça en filigrane pendant cet entretien. Donc, je vous invite donc à rencontrer la richesse des images de Sarah auprès, bien sûr, de vos bibliothèques et librairies préférées. Et surtout, Sarah est à Marseille actuellement. N'hésitez pas à venir la rencontrer donc samedi 30 octobre, pendant le festival de littérature Les Littorales, qui va se dérouler samedi et dimanche sur le cours d'Estienne d'Orves. Donc Sarah, vous serez là pour clôturer en fait votre résidence que vous avez réalisée cette année. Donc une résidence organisée par l'association Libraire à Marseille en partenariat avec la CLM, et au cours de laquelle vous êtes intervenue auprès d'enfants qui fréquentent les espaces lecture de la CLM, donc dans les quartiers du 15e arrondissement. arrondissement plus particulièrement. Et avec eux, vous avez animé des ateliers de création d'histoires en images. Voilà, et donc on pourra... Qu'est-ce que vous pouvez nous dire peut-être déjà sur, sur ces ateliers est-ce que c'est quelque chose du coup que vous aimez aussi partager avec les enfants, de palper quelque part aussi leur propre imaginaire dès lors que vous inventez des histoires avec eux?
Oui, c'est-à-dire que ce que j'ai grand plaisir avec les adultes ou avec les enfants, d'ailleurs, c'est, pour moi, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire à donner l'occasion aux gens qui en ont envie, aux enfants ou aux adultes, de s'apercevoir que l'image, c'est une langue à part entière, avec son vocabulaire, sa grammaire, et donc, simplement avec du papier déchiré, des couleurs, des formes, on apprend à raconter une histoire. Et on se laisse porter par les images pour raconter son histoire. Et on ne fait appel à sa capacité à penser qu'une fois qu'on a commencé à déchirer du papier, choisir ses couleurs, etc. Donc on part de la sensation pour arriver ensuite au récit.
Donc je vous invite à venir rencontrer Sarah et voir aussi donc le fruit de ces ateliers réalisés, de ces images et ces histoires réalisées avec les enfants sur le stand de la CLM, donc pendant les littorales. Pour plus de renseignements, je vous renvoie sur le site www.librairie-paca.com. Vous pouvez aussi téléphoner pour des renseignements complémentaires au 04 96 12 43 42. Sarah, merci beaucoup et à très bientôt.
Merci.
Des lilas de ma jolie.
c'était Massa et Sarah, l'arbre d'Yula. Alors pour continuer sur les livres, encore deux rendez-vous sur lesquels je souhaitais attirer votre attention. Il y a toujours dans le cadre des littorales qui se déroulent cette semaine à Marseille, une rencontre à propos d'enfance avec Christian Bruel, que nous avons eu le plaisir déjà d'accueillir dans cette émission, qui est auteur-éditeur, qui a créé la maison d'édition, les éditions Être, et qui sera à l'Alcazar vendredi 29 octobre de 16h à 17h et qui va nous faire une présentation de l'œuvre de Wolf Erlbruch, œuvre qui est traversée par ce questionnement du rapport à l'autre, de l'image de l'autre, et tout ça parce que le thème de cette année des littorales, c'est « Moi et les autres ». Et toute la programmation littéraire a été réalisée pour approfondir, pour explorer ce qu'est le vivre ensemble et ce que la littérature nous dit du vivre ensemble. Donc en ce qui concerne la jeunesse, ne manquez pas ce rendez-vous-là au cours de la journée de réflexion à l'Alcazar. Et ensuite, une deuxième belle rencontre avec des auteurs jeunesse, une rencontre organisée le dimanche 31 octobre de 14h à 15h30. C'est un lieu qui s'appelle toujours dans le Festival des Littorales, à deux pas du cours d'Estiendorf, ça s'appelle La Boîte, dans les escaliers de la rue de la Paix, donc vraiment à 50 mètres du cours d'Estiendorf. Et cette rencontre-là, c'est avec Ramona Badescu, Ghislaine Herbera et Guillaume Guéraud, que le thème sera abordé, grandir et être soi avec les autres. Voilà, je répète, comme je l'ai dit tout à l'heure à propos de Sarah, pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.librairie-paca.com. Et tout de suite, on enchaîne avec le petit cinéma de Photokino.
トトロ、あなたトトロって言うのね。
Le petit cinéma.
Le petit cinéma part à la campagne. Rendez-vous le 3 novembre à Grance, près de Salon en Provence, dans la magnifique salle toute neuve de l'espace Robert Hossein. Avec quatre films d'animation des studios d'art de Shanghai. Quatre perles cinématographiques venues de Chine. Vous avez peut-être déjà la chance de les avoir vus, puisque ce programme intitulé « Impressions de montagne et d'eau » est sorti en France en 2006, grâce aux distributeurs Les Films du Paradoxe. Jusqu'alors, seuls les spécialistes du cinéma d'animation ou les festivaliers qui fréquentent notamment les grands rendez-vous pour le cinéma d'auteur jeune public, comme le festival pour réveiller les regards à Aubervilliers. Seuls ces grands spécialistes ont pu le voir, contempler, enrichir, s'enrichir plutôt de ces films aux techniques inédites, dont cette fameuse technique du lavis animé. Grâce à des copies 35 mm et maintenant même des éditions vidéo, c'est aujourd'hui possible de transmettre au grand public ces films précieux, trop longtemps restés dans l'ombre. Grâce à l'habileté de ces artistes chinois, c'est un spectacle magique qui s'offre au regard des spectateurs. La peinture chinoise traditionnelle prend vie. L'encre de Chine et l'aquarelle sur le papier de mûrier s'animent. En 1950, les studios d'animation de Shanghai avaient pour objectif de produire à l'intention des enfants des films qui les divertissent et les instruisent, tout en sollicitant leur sens artistique. Peintres, dessinateurs, écrivains travaillaient ensemble à la réalisation d'œuvres de cinéma. un peu comme à l'Institut Kanoun à Téhéran, dont on a déjà parlé. Chaque court-métrage issu de ces studios d'art de Shanghai développe une histoire différente et un univers stylistique propre. Préférant la force de l'image et du mouvement à la parole, les courts-métrages d'animation et studios d'animation de Shanghai, dont le maître incontesté et également fondateur des studios est Tao Wei, font acte de poésie et d'exigence artistique. Un moment d'émerveillement et de poésie. Dans ce programme, Impressions de montagne et d'eau, sont réunis quatre films qui illustrent des fables ou proverbes chinois. Dans le premier, La menthe religieuse, la caméra glisse le long d'un arbre esquissé à l'encre de Chine. Une cigale chante, une menthe religieuse la guette et aimerait bien la dévorer. Un oiseau aux plumes jaunes d'or épie ce manège et tente de défendre la plus faible, alors qu'une zibeline au poil roux le convoite à son tour. Ce film reprend un proverbe très ancien. La menthe pourchasse la cigale sans savoir que l'oiseau la guette. Un précepte qui remonte à plus de 2000 ans, du temps des empereurs Han. Méfiance, méfiance, on peut toujours être la proie de plus fort que soi. Et tous les élèves chinois, petits ou grands, qui voient ces films comprennent tout de suite de quoi il s'agit, car ces proverbes sont enseignés à l'école dès le plus jeune âge. Amène au bord d'un étang où un brave éleveur de poissons essaye de se protéger de la gourmandise de deux oiseaux à la fois effrontés et gloutons qui lui pillent le fruit de son travail, bien sûr. Il construit un épouvantail pour s'en débarrasser. C'est une adaptation en images animées de livres très anciens, des histoires comiques, datant du temps du royaume des combattants, où il est question de flairer la ruse, de discerner le faux du vrai et surtout, dans l'art de la guerre, de savoir rester sur place pour décider d'agir au bon moment, par surprise. Deux premiers films ont été réalisés par Wu Jingqing grâce à la technique du lavis découpé. dans les années 80. Une nouvelle forme d'animation mariant la peinture traditionnelle avec la technique des découpages articulés. Découpages qui peuvent même être déchirés pour restituer le pelage des animaux. La mante religieuse et l'épouvantail sont l'illustration éclatante du talent d'un grand peintre allié à une observation aiguë de la nature. Troisième film du programme, Les Saints qui veulent attraper la Lune, réalisé par Lou Kekin. Par une belle nuit claire, un groupe de singes essaie d'attraper la Lune. Après avoir décidé de grimper les uns sur les autres, ils constatent bien vite qu'ils ne parviendront jamais à l'atteindre. C'est alors que l'un d'entre eux voit le reflet de l'astre de la nuit au fond d'un puits et persuade ses amis de la capturer à la surface de l'eau. Les singes qui veulent attraper la Lune est aussi un découpage en lavis, réalisé dans un style plus moderne et plus dynamique. Programme Impression de Montagne d'eau se termine en beauté par le chef-d'œuvre en lavis animé réalisé par le grand maître Pei-Wei. Film qui a donné son nom au programme. Impression de Montagne et d'eau. Une autre façon d'appeler la peinture en langue chinoise. De lavis général, ce film est le plus beau lavis animé qui n'ait jamais été réalisé. Et en effet, ce conte philosophique sur la transmission de l'art d'un vieux maître à un petit enfant devenu son disciple est un pur joyau. Sans qu'aucune parole ne soit prononcée, le spectateur est transporté au milieu de montagnes, noyé de brume, où seul le bruit du vent et de l'eau fait écho à la musique bouleversante du luth. Un voyage initiatique dans le monde secret de la peinture chinoise. En Chine, la peinture est considérée comme l'une des quatre disciplines artistiques majeures, avec la calligraphie, la musique et la poésie. Ces expressions sont traditionnellement réunies pour exprimer la nature profonde des êtres. En conjuguant ces arts, le peintre réalisateur traduit la quintessence d'une philosophie centrée sur la relation harmonieuse de l'homme avec la nature. Le souffle qui l'anime lui permet de restituer le rythme de la nature. On dit que la feuille de papier brillé s'imbibe plus ou moins de l'encre noire ou de la couleur selon la force du trait. Tracé d'un geste qu'il est impossible de reprendre. Les pinceaux, plus ou moins souples, de grosseur variable sont fabriqués en poils de chèvre, de loup, de cerf ou de lapin. Au total, seuls 4 films de la vie animée ont été produits par les studios de Shanghai. Et il n'y en aura probablement jamais d'autres. Alors je vous encourage à faire la balade jusqu'au cinéma de Grance le 3 novembre pour découvrir ces 4 perles des 3 ans. Au plaisir!
Chères auditrices et chers auditeurs, je vous invite à réouvrir Grimoire, Contes de fées, Souvenirs et sensations de l'enfance en vous rendant à La forêt de mes rêves, une exposition à découvrir en famille jusqu'au 28 février à la Galerie d'art du Conseil Général, cours Mirabeau à Aix-en-Provence. En effet, la Galerie d'art du Conseil Général nous convie à une promenade en forêt, mais pas dans n'importe quelle forêt. Dans la forêt qui nous accompagne depuis notre enfance, celle que nous croisons en lisant Hansel et Gretel, Le Petit Poucet, Le Petit Chaperon Rouge ou encore Blanche-Neige. Une forêt comme théâtre du conte, une forêt comme territoire naturel du merveilleux. Vincent Tuzet-Henrez, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le commissaire de cette exposition qui nous propose une traversée dans le monde du merveilleux et du féerique. De multiples expressions artistiques sont convoquées, la photographie, le dessin, en passant par la littérature, la sculpture et le cinéma. Une trentaine d'artistes internationaux distillent leur part de rêve dans les salles de la galerie, entre enchantement jubilatoire et terreur d'enfance, car le merveilleux peut aussi revêtir les couleurs inquiétantes des contes d'autrefois. Vincent Tuzet-Henrez, comment expliquez-vous que l'enfance et son imaginaire trouve dans l'art du XXe siècle une place qu'il n'avait jamais occupée auparavant et soit source de création pour de nombreux artistes contemporains?
Oui, en effet, c'est vrai que depuis les artistes modernes, que ce soit Paul Klee, Miro, Picasso, bien sûr, qui nous disaient qu'il avait passé sa vie à essayer de dessiner comme un enfant, C'est effectivement cette modernité-là qui s'est emparée véritablement de l'imaginaire de l'enfance. L'enfant auparavant était au plus un sujet de l'art, mais en aucun cas ou très rarement son imaginaire, tous les territoires que sa pensée, sa fantaisie peut balayer, tout ceci était assez rarement évoqué par les artistes, les peintres, etc. Donc c'est vraiment les artistes modernes qui vraiment s'en sont emparés en premier lieu. Et puis ce qui est intéressant de noter aussi, c'est que les surréalistes aussi dans un même mouvement se sont un peu emparés du domaine du rêve, qui est lui aussi un territoire fantastique et empli de fantaisie. Donc c'est un peu voilà cette période-là qui a déclenché chez les artistes peut-être un désir de s'attaquer à ce territoire-là. Et puis petit à petit, peut-être aussi avec le développement peut-être de la psychanalyse, de la psychologie liée à l'enfance dans les années 60-70, petit à petit, les artistes contemporains se sont eux aussi réappropriés cet imaginaire-là, mais peut-être sur un mode plus humoristique ou sur le mode du détournement ou du pastiche, qui est quand même une sorte de mode d'expression aussi assez récurrent dans l'art contemporain. Donc on retrouve un peu, on a essayé de retrouver un peu cet itinéraire-là à travers cette exposition, à travers la forêt de mon rêve, oui.
Oui, et parmi les nombreuses œuvres exposées, deux œuvres d'Alice Anderson, Memory et Mother and Doll. Cette cinéaste plasticienne est un bel exemple justement de la manière dont les artistes visitent les contes, les détournent et réinterprètent leur passé.
Voilà, oui, tout à fait. Elle a vraiment une démarche très très liée aux contes populaires. Certains contes en particulier, comme Réponse ou enfin tous les contes qui mettent en scène des relations souvent entre une mère ou une marâtre et une fille, et donc qui abordent un peu toute la question à la fois de la féminité, mais aussi de l'enfance, de la place de l'enfant et de l'enfant-fille en particulier, de ses relations avec ses parents et avec sa mère. Donc il y a tout un travail un peu comme ça d'approche liée à la psychanalyse, à la, une histoire personnelle qu'elle a développée dans son travail depuis ses débuts. Et effectivement, on montre ici une sculpture qui s'intitule Memory et qui est une sorte de revisite du conte de Réponse. Ouais.
Alors l'entrée en matière se fait par une cabane sans dessus dessous où théière, tasse et guéridon se retrouvent en apesanteur comme libérés des contraintes de la réalité. L'installation de l'artiste espagnole Pamem Pereira donne le ton de la scénographie de cette exposition qui nous fait accéder à un autre espace-temps à l'image des récits de notre enfance où les éléments de la réalité se mélangent, se transforment, où l'étrange devient familier, à l'image également d'Alice au Pays des Merveilles. Alice au Pays des Merveilles représente par excellence la porte d'entrée du merveilleux et le pouvoir du rêve et de l'imaginaire. Et cette exposition tente de donner quelques illustrations de l'influence de Lewis Carroll sur le travail de nombreux artistes.
Oui, tout à fait. Dans cette première pièce, il nous semblait important d'avoir comme une sorte d'espace, de lieu de bascule comme ça entre la réalité, le cours Mirabeau, Aix-en-Provence, et puis en quelques mètres, on bascule directement dans un autre univers. Donc cette espèce de lieu de bascule est une cabane. Donc il y a un récit que l'on a imaginé qui est un peu le fil conducteur de toute l'exposition, et l'histoire, ce fil conducteur narratif débute par cette cabane. Et effectivement, cette idée de bascule dans un univers imaginaire, un univers fantastique, qui est directement inspiré peut-être de Lewis Carroll et d'Alice au Pays des Merveilles, ce moment où elle s'endort, ou en tout cas c'est suggéré, elle s'endort et petit à petit elle bascule dans le domaine du rêve. Et là aussi, effectivement, le domaine du rêve, c'est quelque chose qui n'est pas si souvent abordé dans les contes populaires. C'est plutôt la forêt qui crée par elle-même un espace fantasmatique et fantastique. Ici, on est dans une sorte d'ambiguïté. Est-on dans un rêve? Est-on dans la réalité? Et donc, c'est effectivement ce moment-là du conte qui nous permet de vraiment basculer dans le merveilleux.
Ouais. Oui, la figure d'Alice au Pays des Merveilles est suggérée par plusieurs œuvres, du film Mi de Bertrand Mandigo aux photographies de Corinne Mercadier, en passant par les mises en scène de Tim Walker. Également l'artiste Polyxénie Papapetrou représente Alice et la fiole magique qui la fera grandir et rapetisser. Avec Roland Topor, on a aussi une œuvre de Roland Topor. Alice se retrouve dans un paysage de neige avec tous les protagonistes du conte. Vincent Tuzet-Henrez, pouvez-nous parler plus précisément de toutes ces œuvres qui évoquent Lewis Carroll?
Oui, alors effectivement, c'est vraiment une œuvre qui nous tient à cœur. Bon, Lewis Carroll est très lié aussi à ce mode d'écriture, le nonsense, donc un certain goût de l'absurde qui est développé à la fois dans Alice au Pays des Merveilles, mais dans d'autres de ses récits. C'est un univers qui est aussi proche, qui dans les surréalistes, par exemple, dans l'art, et Topor en est une sorte de petit-fils ou de fils, les surréalistes se sont emparés aussi de cet univers-là, de l'absurde et du rêve. Alors effectivement, dans l'exposition, on a plusieurs illustrations, en quelque sorte, directes du conte, avec, oui, par exemple, une photographie de Polyxéni Papapetrou, qui est donc une artiste australienne, contrairement à ce con que son nom pourrait nous le suggérer, et qui donc qui a fait plusieurs séries autour d'Alice. On a une photographie Topor aussi, donc cette illustration d'Alice où elle se retrouve dans un paysage de neige assez fantasque, mais il y a aussi des évocations, et c'est ce qu'on essayait aussi de chercher dans la sélection de ses œuvres, c'est-à-dire que ça ne soit pas simplement des illustrations très directes des œuvres, en particulier d'Alice, des contes, mais que ça soit aussi des approches plus subtiles, et effectivement que ça soit dans le travail de Bertrand Mandico, d'Alina On, ou dans le travail peut-être d'artistes comme Kiki Smith, c'est des approches beaucoup plus peut-être plus indirectes du conte, mais voilà, on tenait à voir ça, c'est une réinterprétation du conte, et peut-être aussi une certaine réappropriation. On se détache du récit, mais on en garde peut-être le merveilleux ou la fantaisie. Ouais.
Et vous évoquiez l'artiste Alina On. Justement, le titre de cette exposition, La forêt de mon rêve, fait référence à la série de 8 photographies de cet artiste qui ont été réalisées à l'occasion de l'exposition et qui chapitrent ce récit imaginaire.
Oui, tout à fait. En fait, alors la série ayant été commandée à l'occasion de cette exposition, elle a pris le nom de l'exposition, mais elle est vraiment c'est une série clé de l'exposition. Elle est un peu là. Elle a été imaginée en fait pour un peu accompagner le visiteur le long de ce parcours. L'ensemble des œuvres qui sont dans l'exposition n'ont pas été pensées pour les enfants. Ce sont des artistes qui donc ont réalisé leur travail sans se soucier de la question du public. Nous, ce qu'on souhaitait, c'était effectivement avoir une série d'images qui pouvaient peut-être plus directement s'adresser au public pour le guider un peu dans cette forêt très dense et très touffue. Et donc imaginer comme ça un fil narratif qui est ponctué de 8 images donc d'Alina On, où on suit une petite fille qui traverse des paysages, rencontre des personnages imaginaires et jusqu'à arriver à la forêt de son rêve. Donc c'est effectivement une série d'images importantes pour nous. Ouais.
Et donc les œuvres exposées n'ont pas été, comme vous le disiez, réalisées pour particulièrement pour les enfants. Alors en quoi la scénographie de l'exposition La forêt de mes rêves, de mon rêve, pardon, va attirer les enfants qui vont s'y rendre avec leur famille?
Alors là, effectivement, il y a eu un travail sur la scénographie qui a été fait en collaboration aussi avec Renaud Perrin, qui est donc illustrateur, dessinateur à Marseille. Et voilà, la galerie du Conseil Général a été vraiment généreuse de ce point de vue-là, en nous donnant un peu carte blanche pour la scénographie. En même temps, on voulait pas que ça se transforme dans une sorte d'espace qui soit uniquement ludique. Ça reste une exposition qui est là pour mettre en valeur les œuvres. Mais on a quand même essayé, en premier lieu, à travers cette cabane, avec des petites fantaisies de scénographie où l'on peut voir, par exemple, un extrait du film d'Alice à travers une petite porte. Donc on doit se baisser comme Alice, se mettre à quatre pattes pour regarder l'extrait où elle-même se met à quatre pattes. Donc voilà, il y a des petites accroches comme ça qui vont pouvoir ponctuer aussi la visite pour les enfants. Et puis, tout en sachant que c'est un peu l'idée de cette exposition, c'est que elle doit s'adresser à la fois aux enfants, mais aussi aux adultes, aux parents, mais aux adultes tout court, et que donc elle doit être là avant tout pour mettre en valeur des œuvres d'art. Donc effectivement, vous l'avez dit en préambule, ce sont des artistes internationaux. Il y en a 38 en tout, avec des œuvres vraiment qui nous viennent de loin et assez importantes. Et donc ça, voilà, c'était important de faire ce travail sur la scénographie, de garder une ligne qui tienne ça en fait, que ça soit à la fois évocateur pour les enfants, mais respectueux aussi des œuvres. Ouais.
Et des visites commentées, des ateliers d'ailleurs sont organisés aussi pour les enfants en lien avec l'exposition. Sur rendez-vous, le tout est gratuit. Merci beaucoup Vincent Tuzet-Henrès, à très bientôt.
À bientôt, au revoir.
Au revoir.
Un caillou dans la chaussure.
Merci Caroline. L'émission touche à sa fin. Encore deux idées de sortie des spectacles programmés à destination des enfants, toujours dans le cadre du Festival des Littorales, donc à l'Alcazar, du 26 au 30 octobre. Des ateliers carnets de voyage, des lectures théâtralisées jeunesse, notamment les fables animalières, les animaux malades de la peste de Jean de La Fontaine par la compagnie Peanuts. Tout renseignement et inscription, bien sûr, à l'Alcazar au 04 91 55 90 00. Et enfin, toujours à l'Alcazar, une exposition qui s'appelle « État d'âme » à la Wolf Erlbruch. Je vous remercie, l'émission est terminée. Merci beaucoup à nos invités, Sarah, Vincent Tuzet-Henrès. Merci beaucoup à Caroline Guichard, Nathalie Guimard et Sébastien Génie à la technique et à la proposition musicale du jour. Je vous rappelle qu'après diffusion, vous pouvez réécouter les archives sonores sur le site de Radio Grenouille, www.grenouille888.org, à la page de l'émission Un caillou dans la chaussure. Prochain rendez-vous mercredi 24 octobre à 15h sur Radio Grenouille, bien sûr. Très bonne fin de journée et à bientôt.